marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
À notre peuple,
la proposition
que cette année, eu égard à l'événement qui se déroule dans notre pays, et en l'honneur de délégations qui nous font l'immense privilège
de
nous rendre visite
et
de se réunir sur cette terre qui a conquis sa liberté avec le sang de ses fils, qui s'est battu et qui s'est défendu et qui s'y battra encore pour pouvoir s'appeler Cuba.
Et premier territoire libre d'Amérique.
Premier pays socialiste et premier territoire libre d'Amérique.
Le llamemos el año de la solidaridad.
Que cette année s'appelle l'année de la solidarité.
Et que el pueblo la apoye.
Avec l'appui du peuple.
Y que todos los que estén de acuerdo con este nombre que levanten la mano.
Que tous ceux qui sont d'accord avec ce nom lèvent la main.
Viva! El año de la solidaridad. Viva la solidaridad y la hermandad entre todos los pueblos. Viva la lucha de liberación de los pueblos. Patria o muerte, excelencia.
La voix incomparable de Fidel Castro, dont les talents d'orateur ont su construire de son vivant sa légende. Celui qui s'est imposé comme le père de la révolution cubaine a fasciné toute une jeunesse africaine, mais aussi asiatique et latino-américaine, venue participer à la grande fête de la solidarité du mois de janvier 1966, en pleine conférence tricontinentale. Car pour comprendre l'aura de Fidel Castro dans les pays anti-impérialistes et fraîchement décolonisés, il faut revenir à cet événement fondateur qu'a été la conférence des trois continents. 7 ans après l'avènement de la Révolution, 82 délégations venues du monde entier ont convergé vers la Havane, comme en témoigne l'intellectuel français Régis Debray, invité personnel de Fidel Castro.
Le projet de Fidel Castro, d'abord, était de s'opposer, de s'émanciper envers les États-Unis d'Amérique. Pour ça, il avait besoin d'un allié. Il trouve Khrouchtchev. Très vite, il se rend compte des limitations, à la fois en termes de solidarité, en termes de modèle de société de l'Union soviétique d'alors. Et il veut créer quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est la tricontinentale. C'est l'idée que le Parti communiste ne doit pas être nécessairement à la tête des luttes de libération, que la lutte peut engendrer sa propre avant-garde. Bref, il a une vision très différente, avec toujours une vision un peu, je dirais, frondeuse à l'égard du grand frère soviétique.
Cette conférence des trois continents marque l'actualité mondiale des années 60. Entre les deux géants américains et soviétiques, Cuba espère entraîner les non-alignés dans une troisième voie, celle de la multiplication des foyers révolutionnaires sur le modèle cubain.
Cette conférence, ici, à Cuba, territoire libre d'Amérique,
et premier pays socialiste.
Premier pays socialiste de l'hémisphère occidental est en réalité une grande promesse, un grand espoir pour tous les peuples qui luttent contre l'impérialisme.
Amilcar Cabral, du PAIGC, le Parti africain de l'indépendance de Guinée et du Cap-Vert, est l'une des figures de cette conférence de la Havane, dont les Vietnamiens, en guerre contre les Américains, sont à l'époque les héros. Cette épopée anti-impérialiste a été racontée par l'écrivain Roger Faligot dans son livre Tricontinental, une fresque rigoureuse et riche de témoignages qui montre combien Fidel Castro a pu réunir et fasciner toute une génération de révolutionnaires, aujourd'hui orphelines.
Après cette enquête, je suis convaincu que l'enjeu, c'était de réussir à créer un équilibre qui faisait qu'il ne tombait pas sous la tutelle des Chinois, des Soviétiques. Évidemment, de faire face au blocus américain, ce qui était complexe. également de soutenir ces Vietnamiens qui étaient en guerre et qui étaient dans une situation terrible. Et enfin, d'apparaître peut-être comme le leader d'un tiers-monde militant qui émerge sur les trois continents, Afrique, Asie, Amérique latine. On vient d'entendre la voix de Cabral, par exemple. Bah, lui, Cabral, est en train d'organiser la guérilla en Guinée-Bissau. Il est même en train de gagner la guerre, singulièrement, ce qui n'est pas le cas de tous ces révolutionnaires qui sont venus là, à La Havane.
Régis Debray.
Moi, j'ai découvert beaucoup de choses dans le livre de Faligo, figurez-vous. C'est extraordinaire à quel point, peut-être ma mémoire est-elle défaillante, mais j'ai compris toute l'ampleur du projet et également tous les détails d'organisation de la tricontinentale, que j'ai vécu comme un grand moment lyrique, je dirais. Malraux aurait parlé de l'illusion lyrique, mais ça a été le moment, si vous voulez, où la troisième voie entre capitalisme et communisme bureaucratique, où la troisième voie a été le plus proche de trouver un débouché concret. Troisième voie, troisième force, tiers-monde, enfin le chiffre 3. Disons que les 3A, les 3 continents faisaient la nique aux deux grands. Ce qui était quelque chose de frondeur, d'hérétique à l'époque, et que le mouvement communiste institutionnel installé voyait d'un mauvais œil, n'est-ce pas ? Nous étions un peu des moutons noirs ou un peu trop rouges pour à la fois la social-démocratie, bien sûr, mais également beaucoup de partis communistes. Donc c'était une dissidence fervente, pragmatique, peut-être entourée de certaines illusions, dont la principale, elle est classique. C'est que toute révolution cherche à se répéter et à projeter ses méthodes et son esprit sur d'autres contrées, sur d'autres pays qui ont d'autres histoires. Mais ça, c'est ce qui est arrivé aussi bien à la Révolution française qu'à la Révolution russe.
Roger Faligo, Alger. C'est important pour comprendre ce qui se passe à Cuba. Vous attribuez la paternité de l'idée de la conférence tricontinentale à Mehdi Ben Barka, qui lui est marocain. Il se trouve à Alger parce qu'il venait d'être condamné à mort par contumace au Maroc, accusé de complot contre la monarchie. Ben Barka, mais aussi Ben Bella, participent tous les deux à la genèse de cette tricontinentale.
Oui, j'estime que c'est comme les trois mousquetaires, au fond. Il y a Ahmed Ben Bella, donc, qui est le président de la jeune république algérienne qui est tout nouvellement indépendante. Mehdi Ben Barka, très justement. Che Guevara, qui depuis longtemps a commencé à réfléchir à tout ça. Et puis le quatrième, bah, c'est Fidel Castro, quand même, qui voit bien que si on doit organiser tout ça, ça serait beaucoup mieux. C'est-à-dire, jusque-là, on n'avait qu'un mouvement de non-alignés qui touchait l'Asie et l'Afrique. Et là, il fallait faire une extension, en quelque sorte, vers l'Amérique latine. Et ça serait parfait si tout cela s'organisait début 66 à La Havane.
Vous l'avez cité donc, Che Guevara, qui dans le monde entier dénonce la politique américaine, tout comme ici à Genève, en 1964, lors de la conférence mondiale sur le commerce et le développement.
Après avoir déploré l'absence de la Chine communiste et la présence à la conférence des représentants fascistes de l'Afrique du Sud, M. Guevara a prononcé une violente diatribe contre la politique américaine. Il a dénoncé aussi avec violence la soumission des organisations internationales aux capitalistes et aux impérialistes pour perpétuer le sous-développement dans les pays pauvres. Puis il a demandé la création d'une nouvelle organisation mondiale du commerce qui se substituerait aux organismes désuets actuels. À l'issue de ce discours d'une heure et quart, M. Guevara a bien voulu répondre en français à la question que je lui posais sur les chances de succès que lui et son gouvernement accordaient à la conférence. Écoutez-le.
Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la conférence. C'est l'union de tous les pays dites en développement et c'est la compréhension, s'ils sont capables, des grands pays développés capitalistes, de comprendre la situation actuelle et quelle doit être son vraie position pour chercher une forme de relation qui permette un développement pacifique, parce que dans ce moment, on doit se définir. Or, on peut donner quelques avantages aux pays sous-développés pour se développer, ou la situation internationale chaque jour deviendra de plus en plus difficile et peut-être des grandes conventions sociales seront dans tout le pays sous-développées.
Monsieur Guevara, en français, dans le texte, évoque un développement pacifique des pays sous-développés, mais sera lui-même en dehors de Cuba lors de la conférence tricontinentale de 1966, car il est investi dans différentes guérillas en Afrique. Mais à La Havane, les luttes sont diplomatiques. Fin stratège, Fidel Castro a réussi à faire venir une délégation chinoise et une délégation soviétique à leurs frères ennemis dans le camp socialiste.
Il faut savoir que là, c'est les archives qu'on a aujourd'hui, qu'on n'aurait pas pu trouver il y a 10 ans. Les témoignages montrent que les soviétiques étaient hostiles à la création de la tricontinentale. Ils envoient même Semi Chasny, qui est le chef du KGB, des services secrets soviétiques, pour dissuader, en quelque sorte, dire au frère Castro, écoutez, ça serait mieux si vous faisiez autre chose. De la même façon, ils vont envoyer Marcus Wolf, le responsable des services extérieurs de la RDA, pour savoir un peu ce que vont faire les Cubains et leur dire, ça serait mieux de ne pas faire ça. Et par parenthèse, ils veulent aussi savoir où est passé Che Guevara. Parce que ça, c'est leur préoccupation aussi importante, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que déjà, en quelque sorte, la tricontinentale a amorcé une sorte de première avant-garde militaire? Et on sait maintenant qu'il était évidemment au Congo pendant cette affaire.
Manzanillo, Tuna, Bayamo, Palma, Soriano, San Luis, Santiago, Songo, La Maya, Guantánamo y Mayarit.
No sé por qué me siento guajiro. Ay, me siento guajiro.
¿Cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? ¿Los compañeros de acá? ¿Los compañeros de allá? ¿Los compañeros de allá? Partido Comunista de Cuba.
Dans les années 60, Fidel impose au Parti communiste cubain comme l'unique voie de la révolution. Un seul parti, un seul peuple, une seule révolution. Fidel Castro veut prendre la tête du mouvement des pays non alignés, né quelques 10 ans plus tôt à la conférence de Bandung en Indonésie en 1955. Et c'est justement cette idée de la troisième voie qui a séduit toute une génération de militants et d'intellectuels français dès l'avènement de la révolution cubaine en 1959.
Pourquoi je vais à Cuba en 61 participer à la campagne d'alphabétisation? Parce qu'il y avait eu la victoire sur les Américains à la baie des Cochons.
Régis Debray.
Parce qu'il y avait un fantastique appel, je dirais, précisément à rompre avec le modèle soviétique, si vous voulez, qui nous semblait déjà à bout de souffle. Et il y avait une aura extraordinaire du personnage de Fidel sur les étudiants français à l'époque, puisque Bernard Kouchner et moi avions été à l'ambassade de Cuba à Paris en avril 61 pour nous inscrire dans ce qu'on voulait ou croyait qu'allaient être des brigades internationales. Donc il faut recontextualiser cela dans la mobilisation de ce qu'était l'Union des étudiants communistes et beaucoup de mouvements qui ne s'appelaient pas encore gauchistes, qui n'avaient rien encore de 68 ans, ce serait un anachronisme, mais qui étaient à la gauche du Parti communiste.
Écoutez Ho Chi Minh, le leader de la révolution vietnamienne, c'est un document de 1946.
Pour commencer, en mon nom personnel et au nom de mon peuple vietnamien, j'adresse un salut fraternel au peuple français. Toute ma vie, j'ai lutté contre le colonialisme français, mais j'ai toujours aimé et admiré le peuple français. C'est un grand peuple, sensible et généreux, qui, le premier, a levé l'étendard des nobles principes de liberté, d'égalité et de fraternité.
La voix d'Ho Chi Minh, en français, dans la Marche du Monde. Régis Debray, les Vietnamiens sont les héros de la tricontinentale. Quels souvenirs en gardez-vous ?
C'est la référence, évidemment, pour tout le monde. L'idée même, comme dira Le Che bientôt, faire deux ou trois Vietnam. Évidemment, le film annonce n'a pas été suivi de la superproduction annoncée. Mais je trouve très émouvant d'écouter Ho Chi Minh. Et c'est un peu crucifiant parce qu'au fond, tous ces gens qui combattaient l'État français étaient des francophiles malheureux. On se dit que la France a vraiment raté le coche, comme on dit.
Roger Faligo, les Vietnamiens sont un modèle, Régis Debray l'a souligné, un modèle de lutte armée, comme les Algériens, comme les Cubains. Mais la lutte armée, est-ce que c'est le seul moyen de vaincre l'impérialisme américain ? Parce qu'on débat à la tricontinentale du comment développer la révolution.
Oui, effectivement, ce que disait Régis Debray, c'est que Le Che, qui n'est pas là, avant, il était au Congo, il est malade, hein, il était en Tanzanie pendant la conférence, il est en train de lire le mémoire de guerre du général de Gaulle. Après, il va partir donc en Bolivie, et là, il va écrire ce fameux appel à la tricontinentale qui sera relayé plus tard encore. Il faut créer deux, trois Vietnam. Et c'était parce que l'idée, et c'est ça qui a fait peur aux Américains, c'était de dire, si jamais il y a des vrais foyers révolutionnaires qui nous empêchent, qui nous obligent à retirer des troupes au sol ou bien d'arrêter les bombardements sur Haïphong et sur Hanoï, et bien on est vraiment dans une situation critique. Mais en même temps, il faudra avouer que cette tricontinentale aura un effet positif, à mon avis, non pas de faire la révolution, mais là en tout cas pour aider les Vietnamiens à négocier en secret avec les Américains dès 68 à Paris.
Finalement, à l'issue de cette conférence, Fidel Castro prend ce leadership. Les Chinois se retrouvent isolés et malgré tout, les Soviétiques...
Je n'aime pas beaucoup qu'on dise les Chinois, les Soviétiques, etc. Songez que Hu Suetien, qui était le chef de la délégation chinoise, quand il va rentrer en mars 66 à Pékin, il va finir en prison. Parce que commence la révolution culturelle et on va lui reprocher de ne pas s'être battu.
Mené par Mao.
Mené par Mao, Xi Jinping, etc. Bon, la bande des quatre. Et on va lui reprocher de s'être mal débrouillé à Cuba. De la même façon, le responsable de la délégation soviétique va être maltraité également quand il rentre. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la surenchère pendant la conférence vis-à-vis de la question de la lutte armée, la délégation soviétique va même finir par dire que l'Union soviétique va soutenir la guérilla. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout la ligne de coexistence pacifique que souhaite continuer Brezhnev et puis la direction soviétique. Mais évidemment, ça, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Fidel Castro, mais enfin, c'est un bon tacticien. Il est presque un aussi bon joueur d'échecs que Che Guevara. De ce point de vue-là, il essaye de jouer, si vous voulez, l'un contre l'autre. D'ailleurs, quand il attaque les Chinois en début de la conférence, immédiatement, les plus ennuyés sont les Soviétiques qui se disent « Oh là là, s'il attaque les Chinois, qu'est-ce qu'il va nous demander en échange ?»
Fin tacticien, Fidel Castro finira par obtenir le soutien de l'Union soviétique, manne financière pour Cuba jusqu'à l'effondrement du Grand Frère de l'Est en 1991. Mais en ce qui concerne l'extension de la lutte armée, c'est un échec cuisant. Che Guevara est capturé et exécuté par l'armée bolivienne en octobre 1967, un an après la tricontinentale de Cuba. Comment la génération Castro a-t-elle survécu à l'effondrement de l'Union soviétique ? Et comment les Cubains ont-ils fait face à la pénurie des années 90 ? C'est à suivre dans la Marche du Monde sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée à la révolution cubaine, incarnée par Fidel Castro, au-delà de sa disparition. Une révolution exemplaire pour les pays non alignés, mais une révolution qui ne se propagera pas en Afrique ou en Amérique latine, au-delà des tentatives menées par Che Guevara jusqu'à sa mort en Bolivie en 1967. C'est ainsi que pendant 30 ans, le modèle cubain sera un modèle sous perfusion, maintenu artificiellement en vie par l'Union soviétique. Mais quand le grand frère s'effondre, Fidel appelle à la résistance, c'est l'ouverture de la période spéciale en temps de paix. C'est ainsi que le leader Maximo, Fidel Castro, qualifie la nouvelle ère qui s'ouvre au début des années 90 pour les Cubains.
Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS. O incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.
La lutte continue, affirme Fidel Castro, quel que soit le destin de l'Union soviétique. Les années 90 à Cuba, c'est bien la fin de l'aide de l'Union soviétique puisqu'elle s'effondre en 1991. Mais c'est aussi l'embargo américain contre l'île qui va réellement impacter chaque famille à Cuba. Les explications de Sarah Roumette, ancienne correspondante de RFI à Cuba et auteure de Cuba, un guide de l'état du monde aux éditions La Découverte.
C'est surtout en fait le moment où il se fait sentir, parce qu'avant la disparition de l'Union soviétique, il était entièrement compensé justement par ces liens préférentiels qui unissaient Cuba et l'Union soviétique et le camp socialiste en général. Donc c'est vraiment à partir des années 90 que l'embargo américain prend un sens très fort et très quotidien pour l'économie cubaine. Et à ce moment-là, il est renforcé. Et à ce moment-là, les États-Unis essayent même d'intimider le reste du monde pour ne pas commercer avec Cuba. Il y a une clause qui est votée qui dit que les États-Unis poseront des sanctions contre les pays qui commercent avec Cuba. Une clause qui en fait n'a jamais été appliquée, qui est systématiquement suspendue depuis 1996, mais qui existe. C'est-à-dire que c'était une tentative d'intimidation sur le reste du monde et ça isolait encore plus Cuba.
Alors, comment la crise est-elle vécue par les Cubaines et les Cubains pendant les années 90 à Cuba? C'est ce que notre reportage d'archives vous propose de découvrir. Vous allez l'entendre, c'est un immense sentiment d'incompréhension qui frappe les Cubains et cela s'exprime, accompagné de tristesse, de désœuvrement. Zoé Valdés, l'auteur du best-seller « La douleur du dollar », avait déjà écrit à l'époque le néant du quotidien pendant les années noires de la pénurie.
Les Cubains ne connaissaient pas la valeur de l'argent, ils ne savaient pas.
Cuba s'oriente à petits pas vers le capitalisme.
Ah, moi je ne sais pas, je crois qu'on est déjà dans le capitalisme. Je ne peux pas me taire, je dois dire ce que je sens. Je sens qu'il y a le capitalisme. Par exemple, dès le moment qu'il y a des gens qui ont des préférences, il y a des autres qui n'ont pas, il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas de où habiter, qui n'ont rien du tout. Ça, écoute, je travaille, je suis payé en pesos, pas en dollars, et je dois acheter tout en dollars. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Peut-être que je ne connais pas très bien le capitalisme. Parfois, tu sais, je commence à voir des... comme on dit, quand on est dans le désert et on commence à pas rêver, je ne sais pas, je commence à oublier où je suis, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas.
Mirage, vous avez dit mirage, transformation de l'économie, les Cubains ont ri, le fameux slogan « le socialisme ou la mort devient le capitalisme ou la mort », l'humour comme antidote à la déprime, quand chaque jour on ouvre la porte d'un frigo vide, comme le fait Bertha pour RFI en 1995.
C'est triste, hein ? J'ai honte de montrer mon réfrigérateur.
Ça, c'est un petit peu de viande avec soja qui me reste. Ça, c'est une sauce de tomate qu'ils ont vendue qui n'avait pas de tomate dedans. C'est incroyable, je n'ai pas pu l'identifier. Là, bon, ça, j'ai pas voulu jeter l'eau des spaghettis que j'ai fait.
Mais pourquoi faire?
Peut-être je pourrais faire de la soupe en y mettant un peu de vermicelle, je ne sais pas. Ah, il me reste 6 œufs. Je les regarde. Je n'ose pas les prendre parce qu'après, ce sera fini et on ne sait pas quand ils vont vendre de nouveau les œufs.
On a combien d'œufs quand on est une famille à Cuba?
Ils disent que c'est 5 œufs par personne chaque semaine, mais les semaines sont de 10 jours, de 12, 13, 15 jours. Bon, ça revient à 2 fois par mois et même une fois par mois, 5 œufs par personne. C'est moi, j'ai envie de les jeter sur la figure du boucher. Mais je sais que j'irai en prison et de toute façon, ce n'est pas la faute au boucher. Voici, c'est vide. Là, c'est vide. Ça, ce sont des sachets de petits peu de haricots qui restent. Mon frigo vide, ça m'attriste beaucoup. Ça me déprime.
On va le refermer.
Oui, on va le refermer.
Pour les proches du régime, pour la génération de la Révolution, comme Raphaël Palenko, la période spéciale en temps de paix est comparable à Cuba, à une après-guerre.
Je crois que nous traversons comme une période de post-guerre. La période spéciale, c'est vraiment comme une guerre qui a été faite contre le pays. Si vous pouvez établir une sorte de parallélisme entre ce qui a passé à l'Europe immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, quand une femme a été obligée de faire l'amour avec quelqu'un pour une tablette de chocolat ou n'importe quelle autre chose. Je crois que c'est une conséquence, dirais, de la situation difficile du pays.
C'est une honte, mais c'est vrai qu'ici, à Cuba, il y a tant de nécessités qu'on doit le faire. On est dans la période spéciale, il n'y a plus rien dans les magasins, plus rien à manger.
Mais les gens ne meurent pas de faim.
Ce n'est pas qu'ils meurent de faim, mais plutôt qu'il n'y a plus rien dans les magasins comme il y avait avant. Avant, il y avait des choses, des vêtements, des chaussures. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a des choses, mais pas celles-là. Tout pour les étrangers, pour leur soutirer des devises.
Et à cause de cela, toi qui as seulement 13 ans, tu fais l'amour avec les étrangers?
Oui. On doit le faire. Et ici, tout le monde comprend ça. On ne peut pas faire autre chose que ça.
Reportage d'archives sur RFI, dans la marche du monde, à Cuba dans les années 90, des paroles de Cubains et de Cubaines qui doivent se débrouiller pour survivre dans une situation de pénurie. Sarah Roumette, on vient d'entendre notamment la voix de cette très jeune prostituée. Est-ce qu'à ce moment-là, la prostitution augmente réellement à Cuba ?
Ah oui, je crois, à partir de l'apparition du tourisme international, en fait. Le moment de la période spéciale, donc la disparition des subventions soviétiques, c'est aussi toute une nécessaire réorientation de l'économie cubaine. L'abandon du sucre, qui était jusque-là le grand produit phare d'exportation, qui représentait 90% des revenus de l'île, etc. Et la réorientation vers, notamment, le tourisme international. Et avec l'arrivée du tourisme international, l'arrivée donc des touristes, donc d'une économie qui n'est plus du tout une économie basée sur la production, mais plus sur le service, et aussi l'apparition beaucoup de la prostitution. À Cuba, on appelle les prostituées des jineteras et des jineteros, donc c'est des cavalières qui vivent sur le dos des touristes. C'est une façon, un euphémisme pour parler de ça. C'est pas une prostitution dans le sens un échange d'argent contre sexe, c'est parfois aussi accompagner un touriste contre le fait de pouvoir aller avec lui à l'hôtel, à pouvoir aller manger dans un restaurant, pouvoir faire des courses avec. Il n'y a pas forcément une transaction en argent dans l'histoire, mais c'est juste profiter de ses largesses en lui tenant compagnie pendant quelques semaines ou le temps de son séjour.
Alors il y a des aspects bien sûr sombres de cette période spéciale, mais il y a aussi une émergence d'une solidarité et aussi la naissance de ce fameux système D cubain que vous avez pu observer de près puisque vous vous êtes rendu vous-même à Cuba dans les années 2000 en tant que correspondante de RFI. Mais c'est peut-être à ce moment-là où toute l'ingéniosité cubaine doit faire ses preuves.
Oui, enfin, c'est pas forcément quelque chose de très réjouissant non plus, le système D. C'est aussi une façon de rendre très visible toutes les contradictions d'un système et de nourrir toute une économie informelle où, en gros, ceux qui réussissent sont ceux qui contournent le mieux les règles du jeu officiel.
Alors concrètement, comment ça peut se passer ? Un exemple.
Concrètement, le marché noir, par exemple, moi quand j'habitais à Cuba, donc j'ai vécu là-bas pendant 4 ans, et quand je devais acheter des pommes de terre, les pommes de terre étaient rationnées, donc je n'avais pas de carnet de rationnement, je n'étais pas cubaine. Et donc pour acheter des pommes de terre, je devais me cacher avec des sacs en plastique au coin d'une rue, trouver quelqu'un qui voulait me les vendre. Enfin, il y avait une façon de stigmatiser des aspects de la vie quotidienne, c'était la même chose pour du lait, pour du yaourt, éventuellement pour du poisson ou de la viande, enfin beaucoup d'aliments de la vie quotidienne se retrouver dans le marché noir à cause d'une pénurie généralisée. Il n'y avait pas assez pour tout le monde.
Et là, on revient encore sur l'exemple très pédagogique de l'après-guerre. Hein. C'est-à-dire, dans les boutiques, il n'y a rien, mais dans certains garages, dans certaines caves, il y a plein de vivres, mais qui sont dédiés au marché noir.
Et qui sont alimentés par les personnes mêmes qui sont chargées du rationnement de l'État. Il est aussi nourri par toutes les personnes qui offrent des services aux touristes. En gros, tout ce qu'on appelle l'économie émergente, et ça crée ce qu'on appelle à Cuba une pyramide inversée, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été formés selon les règles du jeu, qui sont allés à l'école, qui ont fait des études supérieures pour devenir des professionnels, se retrouvent les plus lésés par ce système, cet état de fait de la période spéciale. Il y a une blague, on parle beaucoup des blagues, les Cubains font beaucoup de blagues, etc. On parle du choteo, qui est une façon de toujours tourner tout en dérision, c'est un sentiment très cubain. Une blague où un homme crie dans la rue « Ouais, je suis le portier de l'hôtel Havana Libre », qui est un grand hôtel de La Havane. « C'est moi le portier de l'hôtel !» Les voisins sont dans la rue, regardent qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis sa femme vient le chercher, dit « Mais je comprends pas pourquoi elle dit ça, il est fou, il n'est que neurochirurgien. »
À l'inverse des espoirs suscités par les années 60, les années 90 à Cuba sont synonymes de désillusion et de pénurie. Au-delà de la mythologie d'une société égalitaire où les systèmes de santé et d'éducation seraient les meilleurs du monde, l'effondrement du bloc soviétique entraîne l'effondrement de l'économie cubaine dans sa chute. Une période spéciale en temps de paix, comme l'a qualifié Fidel Castro, qui met à nu les limites d'une société autarcique, coincée entre pénurie soviétique et embargo américain, les Cubains font face à la réalité de la révolution. Écoutez la voix du célèbre écrivain Leonardo Padura. Il n'a jamais voulu quitter son île, ni même son quartier, tout en racontant à travers ses romans policiers sa réalité cubaine.
El escritor muchas veces puede vivir en los lugares.
Les écrivains, souvent, peuvent vivre dans les endroits les plus incroyables et dans les situations les plus dissemblables. De plus, je vis dans la même maison. Mes parents l'ont construite en 1954 parce qu'ils allaient fonder une famille. Je suis né en 1955 et j'ai passé toute ma vie dans cette maison, qu'on a ensuite agrandie. Au-dessus de la maison de mes parents se trouve celle où je vis avec mon épouse. Et j'ai réussi à créer dans cette maison des conditions assez propices à l'écriture. Le quartier de Mantilla se trouve à l'extérieur de la ville et j'y ai une énorme quantité d'amis, de souvenirs, de références, de complicité. Ce n'est pas un quartier très beau, mais c'est mon quartier. Je ressens vraiment un sentiment d'appartenance. Je ne dis pas que je suis cubain ni de La Havane, mais que je suis de Mantilla, que c'est là ma patrie.
Que yo no soy cubano, que yo no soy habanero, yo digo que yo soy de Mantilla, que esa es mi patria.
Leonardo Padura, en tant qu'écrivain, vous qualifiez chaque période historique de votre pays, Cuba. Alors justement, en tant qu'habitant du quartier de Mantilla à La Havane, en tant qu'écrivain cubain, comment pourriez-vous qualifier la décennie 90 ?
Se puede calificar como un viaje a los infiernos.
On pourrait dire que c'était une descente aux enfers. Les années 90, ce fut pour la majorité des Cubains une période très difficile au quotidien. Trouver de la nourriture, se déplacer, tout était très compliqué. Cependant, du fait justement de ces difficultés, on a vu surgir à Cuba quelques espaces de liberté, parce que l'État n'était plus à même de tout contrôler comme auparavant. Par exemple, comme la quasi-totalité des maisons d'édition avait cessé de publier des livres, cela nous a permis de commencer à publier à l'étranger de manière légale, alors que c'était impossible auparavant.
Empezar a publicar fuera de Cuba de una manera legal. Antes no era posible.
Et précédemment, non seulement ce n'était pas possible, mais quels étaient les risques éventuels que vous preniez en tant qu'écrivain dans vos livres? Pour quel motif, par exemple, auriez-vous pu être accusé de contre-révolution?
En los años 70, era muy fácil que por cualquier motivo te acusaran de ser contre-révolutionnaire.
Dans les années 70, pour n'importe quel motif, on pouvait être accusé d'être contre-révolutionnaire ou tout au moins d'avoir des problèmes idéologiques, selon la terminologie de l'époque. Dans les années 80, j'étais accusé d'avoir des problèmes idéologiques. Je travaillais dans une revue qui s'appelle, puisqu'elle existe toujours, El Caimán Barbudo. J'ai été mis à la porte et on m'a envoyé travailler pour un journal qui appartenait aussi à la jeunesse communiste. C'était une punition. Mais cela s'est transformé en récompense, puisque j'ai appris le journalisme. J'ai pu faire le journalisme que j'ai voulu. On ne m'a pas obligé à faire du journalisme officiel. J'ai eu une chance énorme. Et c'est le moment où j'ai cessé d'être, disons, un écrivain amateur, pour devenir un écrivain avec une connaissance plus professionnelle de la littérature. Et enfin, dans les années 90, la situation change tellement à Cuba qu'il est même possible d'écrire sur des sujets qu'on ne pouvait pas imaginer dans les années 70, qu'il était impossible d'aborder dans les années 80. Donc, dans les années 90, on peut à la fois les imaginer, les écrire et même, avec quelques difficultés, les publier à Cuba.
Par exemple.
Mi primera novela, Pasado Perfecto, trata sobre la corrupción de un funcionario del gobierno.
Mon premier roman parle de la corruption d'un fonctionnaire du gouvernement. Mon deuxième roman, Van Carême, c'est l'histoire d'une enseignante de lycée, corrompue elle aussi, avec des problèmes de drogue, et qui a des relations sexuelles avec ses élèves. Et dans le troisième, Mascaras, je parle du processus de répression des années 70. Et je crois qu'à chaque nouveau roman, je me suis davantage attaché à décrire les problèmes de la réalité cubaine.
Mira, antes quiero decirte algo.
Je voudrais ajouter que durant ces années 90, comme beaucoup de Cubains, j'ai pensé quitter le pays. La situation était si difficile que nous étions à toute extrémité. Et en 95, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans la revue où j'écrivais, une revue de l'Union des écrivains. Je suis devenu écrivain indépendant, pratiquement sans argent, mais j'avais besoin de cette indépendance. Et je crois que ce qui m'a préservé de quitter Cuba et de tomber dans le désespoir, ça a été la littérature. Durant ces années, j'ai écrit 4 romans, 2 recueils de contes, 1 essai, 2 livres de journalisme. J'ai fait 3 films. Et donc l'écriture m'a sauvé, mais aussi une certaine stabilité familiale. À cette époque, Lucia et moi, nous nous sommes mariés. Et c'est à deux que nous avons réussi à résister.
Et un peu entre les deux, logramos résister en cette étape.
Résister à Cuba pendant la période spéciale, le témoignage de Leonardo Padura sur RFI.
Yo siempre escuché hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterio. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro.
Sarah Roumet, ces années 90, elles ont suscité beaucoup de tentatives d'exil. Leonardo Padura y a pensé, il l'a dit. Des tentatives réussies ou ratées, ça a été aussi un phénomène important dans cette période spéciale.
Oui, en fait, depuis les débuts de la Révolution, l'exil a marqué les Cubains. Il y a eu des vagues d'exil déjà dans les années 60, puis dans les années 80, il y a eu un grand exode de 120 000 personnes en 1980. l'année même. Mais en fait, à partir des années 90, d'une certaine façon, les régulations de voyage se sont un peu assouplies. Et puis, en fait, en 1994, à l'été 1994, il y a eu une manifestation. C'était la première fois que ça arrivait à Cuba depuis la Révolution. Une manifestation spontanée dans la Havane, où les gens criaient « Liberté », étaient dans la rue, cassaient les vitrines. Beaucoup de gens ont été arrêtés à ce moment-là, mais trois semaines plus tard, les autorités ont décidé, comme une soupape de sécurité, d'ouvrir les frontières maritimes de façon unilatérale. Et donc, de laisser partir sur l'eau, sur le détroit de Floride, les gens qui voulaient partir. Et c'est toutes ces images que beaucoup de gens connaissent, les auditeurs ont sûrement déjà vu, des balseros, qui sont donc en fait des gens qui sont partis sur des radeaux, traverser ce détroit, qui est un détroit extrêmement dangereux avec un courant très fort au milieu, mais parce que juste en face de Cuba, à 100 km, 150 km, se trouve donc la Floride. Et tout d'un coup, c'est 40 000 personnes, je crois, qui pendant le mois d'août 1994 sont parties comme ça, ou en tout cas, 40 000 sont arrivés, on ne sait pas combien sont partis.
C'est bien ça le problème.
C'est bien ça le problème, c'est tout le danger de ces traversées. À partir de ce moment-là, les autorités américaines ont décidé d'accorder chaque année 20 000 visas aux Cubains légaux pour pouvoir partir, quitter l'île et s'installer dans des conditions extrêmement favorisées aux États-Unis.
Alors ceux qui partent, les exilés, sont aussi ceux qui participent finalement à l'économie cubaine en envoyant de l'argent aux familles dans l'île.
Oui, après coup, oui. Effectivement, une fois qu'ils sont en Floride, ce qu'on appelle les remessas, donc les mandats d'argent, je crois que c'est évalué à 1 milliard de dollars chaque année qui viennent de ces mandats d'argent des étrangers. C'est genre la troisième ou quatrième source de revenus de l'État cubain.
On retrouve Leonardo Padura, l'écrivain cubain très fier de vivre dans son quartier de Montilla, à La Havane. Il a créé, vous l'avez dit, Sarah Roumette, le personnage de détective Mario Conde. Et ces livres sont peut-être un miroir de la réalité cubaine.
Yo no puedo decir que la realidad que yo presento en mis libros sea la realidad cubana.
Je ne peux pas dire que la réalité que je présente dans mes livres soit vraiment la réalité de Cuba, mais elle est assez proche de la réalité cubaine en ce sens que je l'ai vécue et que j'ai essayé de la décrire de la façon la plus sincère et la plus ouverte possible. Je dis toujours que si quelqu'un ouvre un journal cubain de 1995 et un de mes romans, il va penser qu'il s'agit de deux pays différents, mais je crois que le pays de mes romans ressemble davantage au pays réel que celui des journaux.
Que el país de mi novela se parece más al país de la realidad que el de los periódicos cubanos.
Et dans vos livres, justement, est-ce que c'est les sentiments intérieurs de vos personnages, donc la façon dont les Cubains eux-mêmes ressentent cette idéologie castriste, socialiste, c'est cela que vous cherchez à évoquer?
Mario Conde tiene una característica que es muy importante y que es su sentimiento de desencanto.
Mario Conde a cette caractéristique importante qu'il est empreint d'un sentiment de désenchantement face à cette réalité. Moi-même, j'ai grandi à cette époque où on nous promettait un futur meilleur. Mais quand le futur est arrivé, c'était pire. Et on a tout perdu. On est resté sans rien. Ma génération est une génération qui a reçu beaucoup de coups, qui a connu une situation économique très difficile. Et beaucoup de ceux de ma génération ont quitté Cuba. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que grâce à mes livres, d'abord, j'ai pu me sauver de la folie des années 90 et ensuite, j'ai pu vivre de mon écriture. C'est-à-dire que je ne suis pas un exemple typique, mais j'appartiens à cette génération qui a souffert un grand désenchantement entre ce qu'on lui avait promis, ce qu'elle pensait obtenir, non seulement sur le plan matériel, mais humain, et tout ce qui est arrivé ensuite.
Non seulement sur le matériel, mais aussi sur l'humain et ce qui a résulté après.
Est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour un écrivain de manquer de tout ? De quoi vous manquez dans les années 90 ?
Escribir en esa época era un desafío en todos los sentidos.
Écrire à cette époque, c'était un véritable défi dans tous les sens du terme. Moi, par exemple, dans les années 90, j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler en Espagne pour faire un documentaire avec la télévision espagnole. Mais je n'étais pas payé. Il n'existait aucun mécanisme qui permette que l'on soit payé à l'étranger. Alors on m'a donné un viatique un peu supérieur à la normale et moi, j'ai épargné tout cet argent pour pouvoir, à mon retour, m'acheter un ordinateur. Mais en tant que Cubain, je n'avais pas le droit d'acheter un ordinateur, d'autant moins que je n'avais pas le droit d'avoir cet argent. C'était illégal. Alors il fallait demander à un étranger d'aller dans le magasin pour l'acheter. En plus, il y avait les coupures d'électricité, le manque de transport, de nourriture, etc. Malgré tout, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter cet ordinateur et de consacrer de nombreuses heures à écrire.
Para ir a trabajar en la revista donde yo trabajaba, mi esposa trabajaba también cerca, íbamos en bicicleta.
Et pour se rendre à la revue où je travaillais, d'ailleurs ma femme travaille tout à côté, eh bien on y allait en bicyclette. On faisait 20 km à l'aller et 20 au retour. On était en excellente forme physique. Mais vous pouvez imaginer, en mai, juin ou juillet, avec la chaleur de Cuba, c'était comme faire le tour de France. Et pourtant, grâce à la littérature, nous avons décidé de continuer à vivre à Cuba.
Pero gracias a la literatura fue que decidimos seguir viviendo en Cuba.
Au-delà du mythe, la réalité cubaine reste encore à écrire. La mort de Fidel Castro permettra-t-elle une écriture apaisée de l'histoire de la révolution cubaine ? C'est en tout cas le défi à relever pour la jeune génération des historiens qui n'ont justement pas vécu les années de la Révolution. Génération Castro, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Cécile Pompeani et Sophie Janin avec les archives de La Marche du Monde et de l'INA. Vous trouverez toutes les infos bibliographiques de cette émission sur notre page RFI.fr. N'hésitez pas à réagir sur la page de notre Facebook et à échanger sur vos propres sentiments sur la disparition de Fidel Castro. Podcastez cette émission, c'est la vôtre. France 24.